suite et fin du chapitre 1er. Christophe emportait de son côté l'admiration pour Judith Mannheim. Il n'était pourtant pas épris, comme le croyait Judith. Tous deux, elle avec sa finesse, lui avec son instinct qui lui tenait lieu d'esprit, se méprenaient également l'un sur l'autre. Christophe était fasciné par l'énigme de cette figure et par l'intensité de sa vie cérébrale, mais il ne l'aimait pas. Ses yeux et son intelligence étaient pris, son cœur ne l'était point. Pourquoi ? Il eût été assez difficile de le dire. Parce qu'il entrevoyait en elle quelque chose de douteux et d'inquiétant, en d'autres circonstances, c'eût été là pour lui une raison de plus d'aimer. L'amour n'est jamais plus fort que quand il sent qu'il va à ce qui le fera souffrir. Si Christophe n'aimait pas Judith, ce n'était la faute ni de l'un ni de l'autre. La vraie raison, assez humiliante pour tous deux, c'est qu'il était trop près encore de son dernier amour. L'expérience ne l'avait pas rendu plus sage. Mais il avait tant aimé Ada, il avait dans cette passion tant dévoré de foi, de force et d'illusion qu'il ne lui en restait pas assez en ce moment pour une nouvelle passion. Avant qu'une autre flamme s'allumât, il fallait qu'il se refît dans son cœur un autre bûcher. D'ici là, ce ne pouvait être que des feux passagers, des restes de l'incendie échappés par hasard, qui jetaient une lueur éclatante et brève et s'éteignaient faute d'aliments. 6 mois plus tard, il eût peut-être aimé Judith aveuglément. Aujourd'hui, il ne voyait en elle rien de plus qu'un ami, certes un peu troublant, mais il s'efforçait de chasser ce trouble. Ce trouble lui rappelait Ada. C'était là un souvenir sans attrait. Ce qui l'attirait en Judith, c'était ce qu'elle avait de différent des autres femmes, et non ce qu'elle avait de commun avec elle. Elle était la première femme intelligente qu'il eût vue. Intelligente, elle l'était des pieds à la tête. Sa beauté même, ses gestes, ses mouvements, ses traits, les plis de ses lèvres, ses yeux, ses mains, sa maigreur élégante, étaient le reflet de son intelligence. Son corps était modelé par son intelligence. Sans son intelligence, elle eût paru laide. Cette intelligence ravissait Christophe. Il la croyait plus large et plus libre qu'elle n'était. Il ne pouvait savoir ce qu'elle avait de décevant. Il éprouvait l'ardent désir de se confier à Judith, de partager sa pensée avec elle. Il n'avait jamais trouvé personne qui s'y intéressât. Quelle joie c'eût été de rencontrer une amie. Le manque d'une sœur avait été un des regrets de son enfance. Il lui semblait qu'une sœur l'aurait compris mieux que ne pouvait un frère. Après avoir vu Judith, il sentait renaître cet espoir illusoire d'une amitié fraternelle. Il ne pensait pas à l'amour. N'étant pas amoureux, l'amour lui semblait médiocre au prix de l'amitié. Judith ne tarda pas à sentir la nuance, et elle en fut blessée. Elle n'aimait pas Christophe, et elle excitait assez d'autres passions parmi les jeunes gens de la ville, riches et d'un meilleur rang, pour qu'elle ne pût éprouver une grande satisfaction à savoir Christophe amoureux. Mais de savoir qu'il ne l'était pas, elle avait du dépit. C'était un peu mortifiant de voir qu'elle ne pouvait exercer sur lui qu'une influence de raison. Une influence de déraison a un bien autre prix pour une âme féminine. Elle ne l'exerçait même pas. Christophe n'en faisait qu'à sa tête. Judith avait l'esprit impérieux. Elle était habituée à pétrir à sa guise les pensées assez molles des jeunes gens qu'elle connaissait. Comme elle les jugeait médiocres, elle trouvait peu de plaisir à les dominer. Avec Christophe, il n'y avait plus d'intérêt, parce qu'il n'y avait plus de difficultés. Ses projets la laissaient indifférente. Mais il lui eut plu de diriger cette pensée neuve, cette force mal dégrossie, et de la mettre en valeur. À sa façon, bien entendu, et non à celle de Christophe, qu'elle ne se souciait pas de comprendre. Elle avait tout de suite vu que ce ne serait pas sans lutte. Elle avait noté dans Christophe toutes sortes de partis pris, d'idées qui lui semblaient extravagantes et enfantines. C'était de mauvaises herbes, elle se faisait fort de les arracher. Elle n'en arracha pas une. Elle n'obtint même pas la plus petite satisfaction d'amour-propre. Christophe était intraitable. N'étant pas épris, il n'avait aucune raison de lui rien céder de sa pensée. Elle se piqua au jeu, et pendant quelque temps, elle tenta de le conquérir. Il s'en fallut de peu que Christophe, malgré la lucidité d'esprit qu'il possédait alors, se laissa prendre de nouveau. les hommes sont facilement dupes de ce qui flatte leur orgueil et leur désir. Et un artiste est deux fois plus dupe qu'un autre homme, parce qu'il a plus d'imagination. Il ne tint qu'à Judith d'entraîner Christophe dans un flirt dangereux qui l'eût une fois de plus démoli, et plus complètement peut-être. Mais comme d'habitude, elle se lassa vite. Elle trouva que cette conquête n'en valait pas la peine. Christophe l'ennuyait déjà, elle ne le comprenait plus. Elle ne le comprenait plus, passé certaines limites. Jusque-là, elle comprenait tout. Pour aller plus loin, son admirable intelligence ne suffisait plus. Il lui fallut du cœur, ou à défaut, ce qui en donne pour un temps l'illusion, l'amour. Elle comprenait bien les critiques de Christophe contre les gens et les choses. Elle s'en amusait, et elle les trouvait assez vraies. Elle n'était pas sans les avoir pensées. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'était que ses pensées pussent avoir une influence sur sa vie pratique quand leur application était dangereuse ou gênante. L'attitude de révolte que Christophe prenait contre tous ne conduisait à rien. Il ne pouvait s'imaginer qu'il allait réformer le monde. Alors, c'était battre de sa tête contre un mur. Un homme intelligent juge les hommes, les raille secrètement, les méprise un peu. Mais il fait comme eux, un peu mieux seulement. C'est le seul moyen de s'en rendre maître. La pensée est un monde, l'action en est un autre. Quelle nécessité de se rendre victime de ce qu'on pense. Penser vrai, certes, mais à quoi bon dire vrai? Puisque les hommes sont assez bêtes pour ne pouvoir supporter la vérité, faut-il les y forcer? Accepter leur faiblesse, paraître s'y plier, et se sentir libre dans son cœur méprisant, n'y a-t-il pas à cela une jouissance secrète? Jouissance d'esclave intelligent? Soit. Mais esclave pour esclave, puisqu'il faut toujours en venir là, il vaut mieux l'être par sa propre volonté et éviter des luttes ridicules et inutiles. Le pire des esclavages, c'est d'être esclave de sa pensée et de lui sacrifier tout. Il ne faut pas être dupe de soi. Elle voyait nettement que si Christophe s'obstinait, comme il y semblait résolu, dans sa voie d'intransigeance agressive contre les préjugés de l'art et de l'esprit allemand, il tournerait contre lui tout le monde. Et ses protecteurs même. Il allait fatalement à la défaite. Elle ne comprenait pas pourquoi il semblait s'acharner contre lui-même, se ruiner à plaisir. Pour le comprendre, il eût fallu qu'elle pût comprendre aussi que le succès n'était pas son but, que son but était sa foi. Il croyait dans l'art, il croyait dans son art. Il croyait en soi comme en des réalités supérieures, non seulement à toute raison d'intérêt, mais à sa vie. Quand, un peu impatientée par ses observations, il le lui dit, avec une emphase naïve, elle commença par hausser les épaules. Elle ne le prit pas au sérieux. Elle voyait là de grands mots, comme ceux qu'elle était habituée à entendre dire à son frère, qui périodiquement annonçait des résolutions absurdes et sublimes qu'il se gardait bien de mettre à exécution. Puis, quand elle vit que Christophe était vraiment dupe de ses mots, elle jugea qu'il était fou, et elle ne s'intéressa plus à lui. Dès lors, elle ne se donna plus de peine pour paraître à son avantage. Elle se montra ce qu'elle était, beaucoup plus allemande, et allemande banale qu'elle ne semblait d'abord, et que peut-être elle ne pensait. On reproche à tort aux Israélites de n'être d'aucune nation et de former d'un bout à l'autre de l'Europe un seul peuple homogène imperméable aux influences des peuples différents chez qui ils sont campés. En réalité, il n'est pas de race qui prenne plus facilement l'empreinte des pays où elle passe. Et s'il y a bien des caractères communs entre un Israélite français et un Israélite allemand, il y a bien plus encore de caractères différents qui tiennent à leur nouvelle patrie. Ils en épousent avec une rapidité incroyable les habitudes d'esprit, plus encore, à vrai dire, les habitudes que l'esprit. Mais l'habitude qui est chez tous les hommes une seconde nature, étant chez la plupart la seule et unique nature, il en résulte que la majorité des citoyens autochtones d'un pays serait fort malvenue à reprocher aux Israélites le manque d'un esprit national, profond et raisonné, qu'ils n'ont eux-mêmes à aucun degré. Les femmes, toujours plus sensibles aux influences extérieures, plus promptes à s'adapter aux conditions de la vie et à varier avec elles, les femmes d'Israël prennent par toute l'Europe, souvent avec exagération, les modes physiques et morales du pays où elles vivent, sans perdre toutefois la silhouette et la saveur trouble, lourde, obsédante de leur race. Christophe en était frappé. Il rencontrait chez les Mannheim des tantes, des cousines, des amis de Judith. si peu allemande que fussent certaines de ses figures, aux yeux ardents et rapprochés du nez, au nez rapproché de la bouche, aux traits forts, au sang rouge sous la peau épaisse et brune, si peu faite qu'elle semblasse pour être allemande, toutes étaient plus allemandes que de raison, c'était la même façon de parler, de s'habiller, parfois jusqu'à l'outrance. Judith leur était supérieure à toutes, et la comparaison faisait ressortir ce qu'il y avait d'exceptionnel dans son intelligence, ce qui, dans sa personne, était son œuvre. Elle n'en avait pas moins la plupart des travers des autres. Beaucoup plus libre qu'elle, presque absolument libre, sur le terrain moral, elle ne l'était pas plus sur le terrain social, ou du moins son intérêt pratique venait se substituer ici à sa raison libre. Elle croyait au monde, aux classes, aux préjugés, parce que, tout compte fait, elle y trouvait son avantage. Elle avait beau railler l'esprit allemand, elle était attachée à la mode allemande. Elle sentait intelligemment la médiocrité de tel artiste reconnu, mais elle ne laissait pas de le respecter parce qu'il était reconnu. Et si, personnellement, elle était en relation avec lui, elle l'admirait, car sa vanité en était flattée. Elle aimait peu les œuvres de Brahms, et elle le soupçonnait en secret d'être un artiste de second ordre. Mais sa gloire lui en imposait, et comme elle avait reçu 5 ou 6 lettres de lui, il en résultait pour elle avec évidence qu'il était le plus grand musicien du temps. Elle n'avait aucun doute sur la valeur réelle de Christophe et sur la stupidité du premier lieutenant Detlef von Fleischer. Mais elle était plus flattée par la cour que celui-ci daignait faire à 6 millions que par l'amitié de Christophe, car un sot officier n'en est pas moins un homme d'une autre caste, et il est plus difficile à une juive allemande qu'à une autre femme d'entrer dans cette caste. Quoiqu'elle ne fût pas dupe de ces niaiseries féodales, et qu'elle sût fort bien que si elle épousait le premier lieutenant Detlef von Fleischer, c'était elle qui lui ferait un grand honneur, elle s'évertuait à le conquérir. Elle s'humiliait à faire les yeux doux à ce crétin et à flatter son amour-propre. La juive orgueilleuse, et qui avait 1000 raisons de l'être, la fille intelligente et dédaigneuse du banquier Mannheim, aspirait à descendre, à faire comme la première venue de ces petites bourgeoises allemandes qu'elle méprisait. L'expérience fut courte. Christophe perdit ses illusions sur Judith presque aussi vite qu'il les avait prises. Il faut rendre cette justice à Judith qu'elle ne fit rien pour qu'il les gardât. Du jour où une femme de cette trempe vous a jugé, où elle s'est détachée de vous, vous n'existez plus pour elle. Elle ne vous voit plus, et elle ne se gêne pas davantage pour dévêtir devant vous son âme avec une tranquille impudeur que pour se mettre toute nue devant son chien ou son chat. Christophe vit l'égoïsme de Judith, sa froideur, sa médiocrité de caractère. Il n'avait pas eu le temps d'être pris à fond. Ce fut assez déjà pour le faire souffrir, pour lui donner une sorte de fièvre. Sans aimer Judith, il aimait ce qu'elle aurait pu être, ce qu'elle aurait dû être. Ses beaux yeux exerçaient sur lui une fascination douloureuse. Il ne pouvait les oublier. Quoiqu'il sût maintenant l'âme morne qui dormait au fond, il continuait de les voir comme il voulait les voir, comme il les avait vus d'abord. C'était là de ces hallucinations d'amour sans amour qui tiennent tant de place dans les cœurs d'artistes quand ils ne sont pas entièrement absorbés par leur œuvre. Une figure qui passe suffit à la leur donner. Ils voient en elle toute la beauté qui est en elle et qu'elle ignore, dont elle ne se soucie pas. Et ils l'aiment d'autant plus qu'ils savent qu'elle ne s'en soucie pas. Ils l'aiment comme une belle chose qui va mourir sans que personne ait su son prix. Peut-être s'abusait-il, et Judith Mannheim n'aurait-elle pu être rien de plus que ce qu'elle était. Mais Christophe, un instant, avait eu foi en elle, et le charme durait. Il ne pouvait la juger d'une façon impartiale. Tout ce qu'elle avait de beau lui semblait n'être qu'à elle, être elle tout entière. Tout ce qu'elle avait de vulgaire, il le rejetait sur sa double race, la juive et l'allemande. Et peut-être en voulait-il plus à celle-ci qu'à celle-là, car il avait eu à en souffrir davantage. Comme il ne connaissait encore aucune autre nation, l'esprit allemand était pour lui le bouc émissaire. Il le chargeait de tous les péchés du monde. La déception que lui causait Judith lui fut une raison de plus de le combattre. Il ne lui pardonnait pas d'avoir brisé l'élan d'une pareille âme. Telle fut sa première rencontre avec Israël. Il avait espéré trouver dans cette race forte et à part un allié dans sa lutte. Il perdit cet espoir. Avec la mobilité d'intuition passionnée qui le faisait sauter d'un extrême à l'autre, il se persuada aussitôt que cette race était beaucoup plus faible qu'on ne disait, et beaucoup plus accessible, beaucoup trop, aux influences du dehors. Elle était faible de sa propre faiblesse et de toutes celles du monde, ramassées sur son chemin. Ce n'était pas encore là qu'il pouvait trouver le point d'appui pour poser le levier de son art. Il risquait bien plus tôt de s'engloutir avec elle dans le sable du désert. Ayant vu le danger, et ne se sentant pas assez sûr de lui-même pour le braver, il cessa brusquement d'aller chez les Mannheim. Il fut invité plusieurs fois et s'excusa sans donner de raison. Comme il avait montré jusque-là un empressement excessif, ce changement soudain fut remarqué. On le mit sur le compte de son originalité. Mais aucun des trois Mannheim ne douta que les beaux yeux de Judith n'y fussent pour quelque chose. Ce fut un sujet de plaisanterie à table de la part de Lothar et de Franz. Judith haussa les épaules en disant que c'était une belle conquête. Et elle pria sèchement son frère de ne pas lui monter le bateau. Mais elle ne négligea rien pour que Christophe revînt. Elle lui écrivit, sous prétexte d'un renseignement musical que nul autre ne pouvait lui fournir. Et, à la fin de la lettre, elle faisait une allusion amicale à la rareté de ses visites et au plaisir qu'on aurait à le voir. Christophe répondit, donna le renseignement, prétexta ses occupations et ne parut pas. Ils se rencontraient parfois au théâtre. Christophe détournait obstinément les yeux de la loge des Mannheim. Et il feignait de ne pas voir Judith, qui tenait prêt pour lui son plus charmant sourire. Elle n'insista point. Ne tenant pas à lui, elle trouva inconvenant que ce petit artiste lui laissât faire tous les frais en pure perte. S'il voulait revenir, il reviendrait. Sinon, eh bien, on s'en passerait. On s'en passa. Et en effet, son absence ne fit pas un grand vide aux soirées des Mannheim. Mais Judith, en dépit d'elle, garda rancune à Christophe. Elle trouvait naturel de ne pas se soucier de lui quand il était là, et elle lui permettait d'en témoigner du déplaisir. Mais que ce déplaisir alla jusqu'à rompre toute relation lui semblait d'un orgueil stupide et d'un cœur plus égoïste qu'épris. Judith ne tolérait point chez les autres ses défauts. Elle n'en suivit qu'avec plus d'attention ce que Christophe faisait et ce qu'il écrivait. Sans en avoir l'air, elle mettait volontiers son frère sur ce sujet. Elle lui faisait raconter ses conversations de la journée avec Christophe, et elle ponctuait le récit d'observations ironiques qu'il ne laissait passer aucun trait ridicule et ruinait peu à peu l'enthousiasme de Franz sans qu'il s'en aperçût. D'abord, tout fut pour le mieux à la revue. Christophe n'avait pas encore pénétré la médiocrité de ses confrères, et eux, puisqu'il était des leurs, lui reconnaissaient du génie. Mannheim, qu'il avait découvert, répétait de tous côtés, sans avoir rien lu de lui, que Christophe était un critique admirable, qui s'était jusque-là trompé sur sa vocation, et que lui, Mannheim, la lui avait révélée. Ils annoncèrent ses articles à l'avance, en termes mystérieux qui piquaient la curiosité, et sa première chronique fut, dans l'atonie de la petite ville, comme une pierre qui tombe dans une mare aux canards. Elle était intitulée « Trop de musique ». « Trop de musique, trop de boissons, trop de mangeailles », écrivait Christophe. « On mange, on boit, on ouïe, sans faim, sans soif, sans besoin, par habitude de goinfrerie. C'est un régime d'oie de Strasbourg. Ce peuple est malade de boulimie. Peu lui importe ce qu'on lui donne, Tristan ou le trompetteur von Zeckingen, Beethoven ou Mascagni, une flûte, une fugue ou un pas redoublé, Adam, Bach, Puccini, Mozart ou Marchner. Il ne sait pas ce qu'il mange. L'important, c'est qu'il mange. Il n'y trouve même plus de plaisir. Voyez-le au concert. On parle de la gaieté allemande. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est que la gaieté. Ils sont toujours gais. Leur gaieté, comme leur tristesse, se répand en pluie. C'est de la joie en poussière. Elle est atone et sans force. Il resterait pendant des heures à absorber en souriant béatement des sons, des sons, des sons. Il ne pense à rien, il ne sent rien. Ce sont des éponges. La vraie joie, la vraie douleur, la force ne se distribuent pas pendant des heures comme la bière d'un tonneau. Elle vous prend à la gorge et vous terrasse, et on n'a plus envie, après, de rien autre. On a son compte. Trop de musique, vous vous tuez et vous la tuez. Pour ce qui est de vous, cela vous regarde. Mais pour la musique, halte-là. je ne permets pas que vous avilissiez la beauté du monde en mettant dans le même panier les saintes harmonies et les ignominies, en donnant, comme vous faites couramment, le prélude de Parsifal entre une fantaisie sur la flûte du régiment et un quartet de saxophone, ou un adagio de Beethoven flanqué d'un air de Cakewalk et d'une ordure de Leon Cavallo. Vous vous vantez d'être le plus grand peuple musical. Vous prétendez aimer la musique. Quelle musique aimez-vous? Est-ce la bonne ou la mauvaise? Vous les applaudissez de même. À la fin, faites un choix. Que voulez-vous au juste? Vous ne le savez pas. Vous ne voulez pas le savoir. Vous avez trop peur de prendre parti, de vous compromettre. Au diable votre prudence. Vous êtes au-dessus des partis, dites-vous? Au-dessus, cela veut dire au-dessous. Et il leur citait les vers du vieux Gottfried Keller, le rude bourgeois de Zurich, un des écrivains qui lui était cher par sa loyauté batailleuse et son âpre saveur du terroir. Wer über den Parteien sich wähnt mit stolzen Mienen, der steht zumeist viel mehr beträchtlich unter ihnen. Qui fièrement se flatte d'être au-dessus des partis, celui-là bien plutôt reste considérablement au-dessous. Ayez le courage d'être vrai, continuait-il. Ayez le courage d'être laid. Si vous aimez la mauvaise musique, dites-le carrément. Montrez-vous tel que vous êtes. Débarbouillez-vous l'âme du fard dégoûtant de toutes vos équivoques. Lavez-la à grande eau. Depuis combien de temps n'avez-vous pas vu votre mufle dans un miroir? Je m'en vais vous le montrer. Compositeur, virtuose, chef d'orchestre, chanteur, et toi, cher public, vous saurez une bonne fois qui vous êtes. Soyez tout ce que vous voudrez, mais par tous les diables, soyez vrai. Dussent en souffrir les artistes et l'art. Si l'art et la vérité ne peuvent vivre ensemble, que l'art crève. La vérité, c'est la vie. La mort, c'est le mensonge. Cette déclamation juvénile, outrée et d'assez mauvais goût, fit naturellement crier. Pourtant, comme tout le monde était visé, mais comme aucun ne l'était d'une façon précise, personne n'eut garde de se reconnaître. Chacun est, se croit ou se dit le meilleur ami de la vérité. Il n'y avait donc pas de risque qu'on attaquât les conclusions de l'article. On fut seulement choqué du ton général. On s'accordait à le trouver peu convenable, surtout de la part d'un artiste quasi officiel. Quelques musiciens commencèrent à s'agiter et protestèrent avec aigreur. Ils prévoyaient que Christophe n'en resterait pas là. D'autres se crurent plus habiles en félicitant Christophe de son acte de courage. Ils n'étaient pas les moins inquiets sur les prochains articles. L'une et l'autre tactique eurent même résultat. Christophe était lancé, rien ne pouvait l'arrêter. Et comme il l'avait promis, tout y passa, les auteurs et les interprètes. Les premiers sabrés furent les Kapellmeister. Christophe ne s'en tenait point à des considérations générales sur l'art de diriger l'orchestre. Il nommait par leur nom ses confrères de la ville ou des villes voisines. Ou s'il ne les nommait point, les allusions étaient si claires que nul ne s'y trompait. Chacun reconnaissait l'apathique chef d'orchestre de la cour, Alois von Werner, vieillard prudent, chargé d'honneur, qui craignait tout, qui ménageait tout, qui avait peur de faire une observation à ses musiciens et suivait docilement les mouvements qu'il prenait, qui ne hasardait rien sur ses programmes qui ne fut consacré par 20 ans de succès ou, pour le moins, couvert par l'estampille officielle de quelque dignité académique. Christophe applaudissait ironiquement à ses hardiesses. Il le félicitait d'avoir découvert Gade, Dvorak ou Tchaïkovski. Il s'extasiait sur l'immuable correction, l'égalité métronomique, le jeu éternellement « fein nuanciert », finement nuancé, de son orchestre. Il proposait de lui orchestrer pour son prochain concert l'école de la vélocité de Czerny. Et il le conjurait de ne pas tant se fatiguer, de ne pas tant se passionner, de ménager sa précieuse santé. Où c'étaient des cris d'indignation à propos de la façon dont il avait conduit l'héroïque de Beethoven. « Un canon! Un canon! Mitraillez-moi ces gens-là! Mais vous n'avez donc aucune idée de ce que c'est qu'un combat, la lutte contre la bêtise et la férocité humaine, et la force qui les foule aux pieds, avec un rire de joie? Comment le sauriez-vous? C'est vous quel combat! Tout l'héroïsme qui est en vous, vous le dépensez à écouter ou à jouer sans bâiller l'héroïque de Beethoven. Car cela vous ennuie, avouez donc que cela vous ennuie, que vous en crevez d'ennui. ou à braver un courant d'air, tête nue et dos courbé, sur le passage de quelque sérénissime. Il n'avait pas assez de sarcasme pour ses pontifs de conservatoire, interprétant les grands hommes du passé en classiques. Classique, ce mot dit tout. La libre passion, arrangée, expurgée à l'usage des écoles. La vie, cette plaine immense que balayent les vents, renfermée entre les quatre murs d'une cour de gymnase. Le rythme sauvage et fier d'un cœur frémissant, réduit au tic-tac de pendule d'une mesure à quatre temps, qui va tranquillement son petit bonhomme de chemin, clochant du pied et béquillant sur le temps fort. Pour jouir de l'océan, vous auriez besoin de le mettre dans un bocal, avec des poissons rouges. Vous ne comprenez la vie que quand vous l'avez tuée. S'il n'était pas tendre pour les empailleurs, ainsi qu'il les nommait, il l'était moins encore pour les écuyers de cirque, pour les Kapellmeisters illustres qui venaient en tournée faire admirer leurs ronds de bras et leurs mains fardées, ceux qui exerçaient leur virtuosité sur le dos des grands maîtres, s'évertuaient à rendre méconnaissables les œuvres les plus connues et faisaient des cabrioles à travers le cerceau de la symphonie en ut mineure. Ils les traitaient de vieilles coquettes, de tziganes et de danseurs de cordes. Les virtuoses lui fournissaient une riche matière. Il se récusait quand il avait à juger leurs séances de prestidigitation. Il disait que ces exercices de mécanique étaient du ressort du Conservatoire des Arts et Métiers, et que seuls des graphiques enregistrant la durée, le nombre des notes et l'énergie dépensée pouvaient évaluer le mérite de pareils travaux. Parfois, il mettait au défi un pianiste célèbre qui venait de surmonter dans un concert de 2 heures la difficulté la plus formidable, le sourire aux lèvres et la mèche sur les cheveux, d'exécuter un andante enfantin de Mozart. Certes, il ne méconnaissait point le plaisir de la difficulté vaincue. Lui aussi l'avait goûté. C'était une des joies de la vie. Mais n'en voir que le côté le plus matériel, et finir par y réduire tout l'héroïsme de l'art, lui paraissait grotesque et dégradant. Il ne pardonnait pas aux lions ou aux panthères du piano. Il n'était pas non plus très indulgent pour les braves pédants, célèbres en Allemagne, qui, justement soucieux de ne point altérer le texte des maîtres, répriment avec soin tout élan de la pensée, et comme Hans de Bülow, quand ils disent une sonate passionnée, semblent donner une leçon de diction. Les chanteurs eurent leur tour. Christophe en avait gros sur le cœur à leur dire de leur lourdeur barbare et de leur emphase de province. Ce n'était pas seulement le souvenir de ses démêlés avec la dame en bleu. C'était la rancune de tant de représentations qui lui avait été un supplice. Il ne savait ce qui avait le plus à y souffrir, des oreilles ou des yeux. Encore Christophe manquait-il de termes de comparaison pour bien juger de la laideur de la mise en scène, des costumes disgracieux, des couleurs qui hurlaient. Il était surtout choqué par la vulgarité des types, des gestes et des attitudes, par le jeu sans naturel, par l'inaptitude des acteurs à revêtir des âmes étrangères, par l'indifférence stupéfiante avec laquelle il passait d'un rôle à un autre, pourvu qu'il fût écrit à peu près dans le même registre de voix. D'opulentes matrones, réjouies et rebondies, s'exhibaient tour à tour en Isolde et en Carmen. Amfortas jouait Figaro. Mais ce qui naturellement était le plus sensible à Christophe, c'était la laideur du chant, surtout dans les œuvres classiques, dont la beauté mélodique est un élément essentiel. On ne savait plus chanter en Allemagne la parfaite musique de la fin du XVIIIe siècle. On ne s'en donnait pas la peine. Le style net et pur de Gluck et de Mozart, qui semble comme celui de Goethe tout baigné de lumière italienne, ce style qui commence à s'altérer déjà, à devenir vibrant et papillotant avec Weber, ce style ridiculisé par les lourdes caricatures de l'auteur du Crociato, avait été anéanti par le triomphe de Wagner. Le vol sauvage des Valkyries aux cris stridents avait passé sur le ciel de la Grèce. Les nuées d'Odin étouffaient la lumière. Nul ne songeait plus maintenant à chanter la musique. On chantait les poèmes. On faisait bon marché des négligences de détails, des laideurs, des fausses notes même, sous prétexte que seul l'ensemble de l'œuvre, la pensée, importait. La pensée, parlons-en, comme si vous la compreniez. Mais que vous la compreniez ou non, respectez, s'il vous plaît, la forme qu'elle s'est choisie. Avant tout, que la musique soit et reste de la musique. D'ailleurs, ce grand souci que les artistes allemands prétendaient avoir de l'expression et de la pensée profonde était, selon Christophe, une bonne plaisanterie. De l'expression, de la pensée, oui, ils en mettaient partout, partout également. Ils eussent trouvé de la pensée dans un chausson de laine, aussi bien, pas plus, pas moins, que dans une statue de Michel-Ange. Ils jouaient avec la même énergie n'importe qui, n'importe quoi. Au fond, chez la plupart, l'essentiel de la musique était, assurait-il, le volume du son, le bruit musical. Le plaisir de chanter, si puissant en Allemagne, était une satisfaction de gymnastique vocale. Il s'agissait de se gonfler d'air, largement, et de le rejeter avec vigueur, fort, longtemps et en mesure. Et il décernait à telle grande chanteuse, en guise de compliment, un brevet de bonne santé. Il ne se contentait pas d'étriller les artistes. Il enjambait la rampe et rossait le public qui assistait bouche bée à ses exécutions. Le public, ahuri, ne savait pas s'il devait rire ou se fâcher. Il avait tous les droits de crier à l'injustice. Il avait pris bien garde de ne se mêler à aucune bataille d'art. Il se tenait prudemment en dehors de toute question brûlante. Et de peur de se tromper, il applaudissait tout. Et voici que Christophe lui faisait un crime d'applaudir. D'applaudir les méchantes œuvres, c'eût été déjà fort. Mais Christophe allait plus loin. Ce qu'il lui reprochait le plus d'applaudir, c'était les grandes œuvres. « Farceur, leur disait-il, vous voudriez faire croire que vous avez tant d'enthousiasme que cela? Allons donc, vous prouvez justement le contraire. Applaudissez, si vous voulez, les œuvres ou les pages qui appellent l'applaudissement. Applaudissez les conclusions bruyantes qui ont été faites, comme disait Mozart, pour les longues oreilles. Là, donnez-vous-en à cœur joie. Les braiements sont prévus, ils font partie du concert. Mais après la Missa Solemnis de Beethoven, malheureux, c'est le jugement dernier. Vous venez de voir se dérouler le Gloria affolant comme une tempête sur l'océan. Vous avez vu passer la trombe d'une volonté athlétique et forcenée qui s'arrête, se retient aux nuées, cramponnée des deux poings sur l'abîme, et se lance de nouveau dans l'espace à toute volée. La rafale hurle. Au plus fort de l'ouragan, une brusque modulation, un miroitement de ton, troue les ténèbres du ciel et tombe sur la mer livide comme une plaque de lumière. C'est la fin. Le vol furieux de l'ange exterminateur s'arrête net, les ailes clouées par trois coups d'éclair. Tout tremble encore autour. L'œil ivre a le vertige. Le cœur palpite, le souffle s'arrête, les membres sont paralysés. Et la dernière note n'a pas fini de vibrer, que vous êtes déjà gai et réjoui, vous criez, vous riez, vous critiquez, vous applaudissez. Mais vous n'avez donc rien vu, rien entendu, rien senti, rien compris, rien, rien, absolument rien. Les souffrances d'un artiste sont pour vous un spectacle. Vous jugez finement peintes les larmes d'agonie d'un Beethoven. Vous crieriez bis à la crucifixion. Un demi-dieu se débat toute une vie dans la douleur pour divertir pendant une heure votre badauderie. Ainsi, il commentait sans le savoir la grande parole de Goethe, mais il n'avait pas encore atteint à sa hautaine sérénité. Le peuple se fait un jeu du sublime. S'il le voyait tel qu'il est, il n'aurait pas la force d'en soutenir l'aspect. S'il en fut resté là, mais emporté par son élan, il dépassa le public et s'en alla tomber comme un boulet de canon dans le sanctuaire, le tabernacle, le refuge inviolable de la médiocrité, la critique. Il bombarda ses confrères. Un d'eux s'était permis d'attaquer le mieux doué des compositeurs vivants, le représentant le plus avancé de la nouvelle école, Hassler, auteur de symphonies à programme, à vrai dire assez extravagantes, mais pleines de génie. Christophe, qui lui avait été présenté quand il était enfant, gardait pour lui une tendresse secrète en reconnaissance de l'émotion qu'il avait eue jadis. Voir un critique stupide, dont il savait l'ignorance, faire la leçon à un homme de cette taille, le rappeler à l'ordre et au principe, le mit hors de lui. « L'ordre ! L'ordre ! » s'écria-t-il. « Vous ne connaissez pas d'autre ordre que celui de la police. Le génie ne se laisse pas mener dans les chemins battus. Il crée l'ordre et érige sa volonté en loi. » Après cette orgueilleuse déclaration, il saisit le malencontreux critique et, relevant les âneries qu'il avait écrites depuis un certain temps, il lui administra une correction magistrale. La critique tout entière sentit l'affront. Jusque-là, elle s'était tenue à l'écart du combat. Il ne se souciait point de risquer des rebuffades. Il connaissait Christophe, il savait sa compétence, et il savait aussi qu'il n'était point patient. Tout au plus, certains d'entre eux avaient-ils exprimé discrètement le regret qu'un compositeur aussi bien doué se fourvoyât dans un métier qui n'était pas le sien. Quelle que fût leur opinion, quand ils en avaient une, ils respectaient en lui leur propre privilège de pouvoir tout critiquer sans être eux-mêmes critiqués. Mais quand ils virent Christophe rompre brutalement la convention tacite qui les liait, aussitôt ils reconnurent en lui un ennemi de l'ordre public. D'un commun accord, il leur sembla révoltant qu'un jeune homme se permît de manquer de respect aux gloires nationales, et ils commencèrent contre lui une campagne acharnée. Ce ne furent pas de longs articles des discussions suivies. Ils ne s'aventuraient pas volontiers sur ce terrain avec un adversaire mieux armé, encore qu'un journaliste ait la faculté spéciale de pouvoir discuter sans tenir compte des arguments de son adversaire et même sans les avoir lus. Mais une longue expérience leur avait démontré que, le lecteur d'un journal étant toujours de l'avis de son journal, c'était affaiblir son crédit auprès de lui que faire même semblant de discuter. Il fallait affirmer, ou mieux encore, nier. La négation a une force double de l'affirmation. Conséquence directe de la loi de la pesanteur. Il est plus facile de faire tomber une pierre que de la lancer en l'air. Ils s'en tinrent donc, de préférence, à un système de petites notes perfides, ironiques, injurieuses, se répétant chaque jour en bonne place, avec une obstination inlassable. Elle livrait au ridicule l'insolent Christophe, sans le nommer toujours, mais en le désignant d'une façon transparente. Elle déformait ses paroles de manière à les rendre absurdes. Elle racontait de lui des anecdotes dont le point de départ était vrai parfois, mais dont le reste était un tissu de mensonges habilement calculé pour le brouiller avec toute la ville, et plus encore avec la cour. Elle s'attaquait à sa personne physique, à ses traits, à sa mise, dont elle traçait une caricature qui finissait par paraître ressemblante à force d'être répétée. Tout cela eût été indifférent aux amis de Christophe si leur revue n'avait aussi reçu des horions dans la bataille. À la vérité, c'était en guise d'avertissement. On ne cherchait pas à l'engager à fond dans la querelle, on visait bien plutôt à la séparer de Christophe. On s'étonnait qu'elle compromît son bon renom, et on laissait entendre que si elle n'y avisait point, on serait contraint, quelque regret qu'on en eût, de s'en prendre également au reste de la rédaction. Un commencement d'attaque assez anodine contre Adolphe Maille et Mannheim mit l'émoi dans le guêpier. Mannheim ne fit qu'en rire. Il pensait que cela ferait enrager son père, ses oncles et ses cousins, et son innombrable famille, qui s'arrogeait le droit de surveiller ses faits et gestes et de s'en scandaliser. Mais Adolphe Maille le prit fort au sérieux, et il reprocha à Christophe de compromettre la revue. Christophe l'envoya promener. Les autres n'ayant pas été atteints, trouvaient plutôt plaisant que Maille, qui pontifiait avec eux, écopât à leur place. Waldhaus en ressentit une jouissance secrète. Il dit qu'il n'y avait pas de combat sans quelques têtes cassées. Naturellement, il entendait bien que ce ne serait point la sienne. Il se croyait à l'abri des coups, par sa situation de famille et par ses relations, et il ne voyait pas de mal à ce que les Juifs, ses alliés, fussent un peu houspillés. Ehrenfeld et Goldenring, indemnes jusque-là, ne se fussent pas troublés de quelques attaques, ils étaient capables de répondre. Ce qui leur était plus sensible, c'était l'obstination avec laquelle Christophe s'acharnait à les mettre mal avec tous leurs amis, et surtout avec leurs amis eux. Aux premiers articles, ils avaient beaucoup ri et trouvé la farce bonne. Ils admiraient la vigueur de Christophe à casser les carreaux. Ils croyaient qu'il suffirait d'un mot pour tempérer son ardeur combative, pour détourner au moins ses coups de ceux et de celles qu'il lui désignerait. Point. Christophe n'écoutait rien. Il n'avait égard à aucune recommandation, et il continuait comme un enragé. Si on le laissait faire, il n'y aurait plus moyen de vivre dans le pays. Déjà, leurs petites amies, éplorées et furieuses, étaient venues leur faire des scènes à la revue. Ils usèrent toute leur diplomatie à persuader Christophe d'atténuer au moins certaines appréciations. Christophe ne changea rien. Ils se fâchèrent. Christophe se fâcha, mais il ne changea rien. Waldhaus, diverti par l'émoi de ses amis, qui ne le touchait point, prit le parti de Christophe pour les faire enrager. Peut-être était-il plus capable qu'eux d'apprécier la généreuse extravagance de Christophe, se jetant tête baissée contre tous, sans se réserver aucun chemin de retraite, aucun refuge pour l'avenir. Quant à Mannheim, il s'amusait royalement du charivari. Ce lui semblait une bonne farce d'avoir introduit ce fou parmi ces gens rangés, et il se tordait de rire, aussi bien des coups que Christophe assénait que de ceux qu'il recevait. Bien qu'il commençât à croire, sous l'influence de sa sœur, que Christophe était décidément un peu timbré, il ne l'en aimait que mieux. Il avait besoin de trouver ridicule ceux qui lui étaient sympathiques. Il continua donc, avec Waldhaus, à soutenir Christophe contre les autres. Comme il ne manquait pas de sens pratique, malgré tous ses efforts pour se donner l'illusion du contraire, il eut très justement l'idée qu'il serait avantageux à son ami d'allier sa cause avec celle du parti musical le plus avancé du pays. Il y avait dans la ville, comme dans la plupart des villes allemandes, un Wagner-Verein, qui représentait les idées neuves contre le clan conservateur. Et certes, on ne courait plus grand risque à défendre Wagner, quand sa gloire était partout reconnue et ses œuvres inscrites au répertoire de tous les opéras d'Allemagne. Cependant, sa victoire était plutôt imposée par la force que consentie librement. Et au fond du cœur, la majorité restait obstinément conservatrice, surtout dans les petites villes, comme celle-ci, demeurée un peu à l'écart des grands courants modernes et fière d'un antique renom. Plus que partout ailleurs, régnait là cette méfiance, innée au peuple allemand, contre toute nouveauté, cette paresse à sentir quelque chose de vrai et de fort, qui n'eût pas été ruminée déjà par plusieurs générations. On s'en apercevait à la mauvaise grâce avec laquelle étaient accueillies, sinon les œuvres de Wagner, qu'on n'osait plus discuter, toutes les œuvres nouvelles inspirées de l'esprit wagnérien. Aussi les Wagner-Vereine auraient-ils eu une tâche utile à remplir s'ils avaient pris à cœur de défendre les forces jeunes et originales de l'art. Ils le firent parfois, et Bruckner ou Hugo Wolf trouvèrent en certains d'entre eux leurs meilleurs alliés. Mais trop souvent l'égoïsme du maître pesait sur ses disciples. Et de même que Bayreuth ne servait qu'à la glorification monstrueuse d'un seul, les filiales de Bayreuth étaient de petites églises où l'on disait éternellement la messe en l'honneur du seul Dieu. Tout au plus admettait-on dans les chapelles latérales les disciples fidèles qui appliquaient à la lettre les doctrines sacrées et adoraient, la face dans la poussière, la divinité unique aux multiples visages, musique, poésie, drame et métaphysique. C'était précisément le cas du Wagner-Verein de la ville. Cependant, il y mettait des formes. Il cherchait volontiers à enrôler les jeunes gens de talent qui semblaient pouvoir lui être utiles. Et depuis longtemps, il guettait Christophe. Il lui avait fait faire discrètement des avances, auxquelles Christophe n'avait pas pris garde, parce qu'il n'éprouvait aucunement le besoin de s'associer avec qui que ce fût. Il ne comprenait pas quelle nécessité poussait ses compatriotes à se grouper toujours en troupeau, comme s'ils ne pouvaient rien faire seuls. Ni chanter, ni se promener, ni boire. Il avait l'aversion de tout Vereinwesen. Mais, à tout prendre, il était mieux disposé pour un Wagner-Verein que pour les autres Vereine. C'était au moins un prétexte à de beaux concerts. Et bien qu'il ne partageât pas toutes les idées des Wagneriens sur l'art, il en était plus près que des autres groupements musicaux. Il pouvait, semblait-il, trouver un terrain d'entente avec un parti qui se montrait aussi injuste que lui pour Brahms et les Brahmines. Il se laissa donc présenter. Mannheim fut l'intermédiaire. Il connaissait tout le monde. Sans être musicien, il faisait partie du Wagner-Verein. Le comité de direction avait suivi la campagne que Christophe menait dans la revue. Certaines exécutions qu'il avait faites dans le camp opposé lui paraissaient témoigner d'une poigne vigoureuse qu'il serait bon d'avoir à son service. Christophe avait bien aussi décoché quelques pointes irrespectueuses contre l'idole sainte, mais on avait préféré fermer les yeux là-dessus. Et peut-être ces premières attaques, assez inoffensives, n'avaient-elles pas été étrangères, sans que l'on en convînt, à la hâte que l'on avait d'accaparer Christophe, avant qu'il eût le temps de se prononcer davantage. On vint très aimablement lui demander la permission d'exécuter quelques-unes de ses mélodies à un des prochains concerts de l'association. Christophe, flatté, accepta. Il vint au Wagner-Verein, épousé par Mannheim, il s'y laissa inscrire. À la tête du Wagner-Verein étaient alors deux hommes, dont l'un jouissait d'une notoriété comme écrivain et l'autre comme chef d'orchestre. Tous deux avaient en Wagner une foi mahométane. Le premier, Josias Kling, avait fait un dictionnaire de Wagner, Wagner Lexicon, permettant de savoir à la minute la pensée du maître des omni re scibili, de toutes choses dignes d'être sues. Ça avait été la grande œuvre de sa vie. Il eût été capable d'en réciter des chapitres entiers à table, comme les bourgeois de province française récitaient des chants de la Pucelle. Il publiait aussi dans les Bayreuther Blätter des articles sur Wagner et l'esprit arien. Il va de soi que Wagner était pour lui le type du pur arien, dont la race allemande était restée le refuge inviolable contre les influences corruptrices du sémitisme latin, et spécialement français. Il proclamait la défaite définitive de l'impur esprit gaulois. Il n'en continuait pas moins, chaque jour, âprement le combat, comme si l'éternel ennemi était toujours menaçant. Il ne reconnaissait qu'un seul grand homme en France, le comte de Gobineau. Kling était un petit vieillard, tout petit, très poli et rougissant comme une demoiselle. L'autre pilier du Wagner-Verein, Erich Lauber, avait été directeur d'une fabrique de produits chimiques jusqu'à 40 ans. Puis il avait tout planté là pour se faire chef d'orchestre. Il y était parvenu à force de volonté et parce qu'il était très riche. Il était un fanatique de Bayreuth. On comptait qu'il s'y était rendu à pied de Munich en sandales de pèlerin. Chose curieuse que cet homme qui avait beaucoup lu, beaucoup voyagé, fait différents métiers et montré partout une personnalité énergique, fut devenu en musique un mouton de Panurge. Toute son originalité s'était dépensée là à être un peu plus stupide que les autres. Trop peu sûr de lui-même en musique pour se fier à son sentiment personnel, il suivait servilement les interprétations que donnaient de Wagner les Kapellmeister et les artistes patentés par Bayreuth. Il eût voulu faire reproduire jusqu'au moindre détail de la mise en scène et des costumes multicolores qui ravissaient le goût puéril et barbare de la petite cour de Wahnfried. Il était de l'espèce de ce fanatique de Michel-Ange qui reproduisait dans ses copies jusqu'aux moisissures qui, s'étant introduites dans l'œuvre sacrée, étaient devenues de ce fait elles-mêmes sacrées. Christophe ne devait pas goûter beaucoup ces deux personnages, mais ils étaient hommes du monde, affables, assez instruits. Et la conversation de Lauber ne laissait pas d'être intéressante quand on le mettait sur un autre sujet que la musique. C'était d'ailleurs un braque, et les braques ne déplaisaient pas trop à Christophe. Il le changeait de l'assommante banalité des gens raisonnables. Il ne savait pas encore que rien n'est plus assommant qu'un homme qui déraisonne, et que l'originalité est encore plus rare chez ceux qu'on nomme bien à tort des originaux que dans le reste du troupeau. Car ces originaux sont de simples maniaques, dont la pensée est réduite à des mouvements d'horlogerie. Josias Kling et Lauber, désireux de gagner Christophe, se montrèrent d'abord plein d'égards pour lui. Kling lui consacra un article élogieux, et Lauber s'appliqua à suivre toutes ses indications pour ses œuvres qu'il dirigea à un concert de la société. Christophe en fut touché. Malheureusement, l'effet de ses prévenances lui fut gâté par l'inintelligence de ceux qui le lui faisaient. Il n'avait pas la faculté de s'illusionner sur les gens parce qu'il l'admirait. Il était exigeant. Il avait la prétention qu'on ne l'admirât point pour le contraire de ce qu'il était. Et il n'était pas loin de regarder comme des ennemis ceux qui étaient ses amis par erreur. Aussi, il ne sut aucun gré à Kling de voir en lui un disciple de Wagner et de chercher des rapprochements entre des phrases de ses leaders et des passages de la tétralogie qui n'avaient rien de commun que certaines notes de la gamme. Et il n'eut aucun plaisir à entendre une de ses œuvres encastrée côte à côte avec un pastiche sans valeur d'un scolaire wagnérien entre deux blocs énormes de l'éternel Richard. Il ne tarda pas à étouffer dans cette petite chapelle. C'était un autre conservatoire, aussi étroit que les vieux conservatoires et plus intolérant, parce qu'il était nouveau venu dans l'art. Christophe commença à perdre ses illusions sur la valeur absolue d'une forme d'art ou de pensée. Jusque-là, il avait cru que les grandes idées portent partout avec elles leur lumière. Il s'apercevait à présent que les idées avaient beau changer, les hommes restaient les mêmes. Et, en définitive, rien ne comptait que les hommes. Les idées étaient ce qu'ils étaient. S'ils étaient nés médiocres et serviles, le génie même se faisait médiocre en passant par leurs âmes. Et le cri d'affranchissement du héros brisant ses fers devenait le contrat de servitude des générations à venir. Christophe ne put se tenir d'exprimer ses sentiments. Il doba sur le fétichisme en art. Il déclarait qu'il ne fallait plus d'idole, plus de classique d'aucune sorte, et que seul avait le droit de s'appeler l'héritier de l'esprit de Wagner, celui qui était capable de fouler aux pieds Wagner pour marcher droit devant lui, en regardant toujours en avant et jamais en arrière. Celui qui avait le courage de laisser mourir ce qui doit mourir et de se maintenir en communion ardente avec la vie. La sottise de Kling rendait Christophe agressif. Il releva les fautes ou les ridicules qu'il trouvait chez Wagner. Les Wagneriens ne manquèrent pas de lui attribuer une jalousie grotesque à l'égard de leur dieu. Christophe, de son côté, ne doutait point que ces mêmes gens qui exaltaient Wagner depuis qu'il était mort n'eussent été des premiers à l'étrangler quand il était vivant. En quoi il leur faisait tort? Un Kling et un Lauber avaient eu, eux aussi, leur heure d'illumination. Ils avaient été de l'avant, il y avait quelque 20 ans, puis, comme la plupart, ils avaient campé là. L'homme a si peu de force qu'à la première montée, il s'arrête époumonné. Bien peu ont assez de souffle pour continuer leur route. L'attitude de Christophe lui aliéna promptement ses nouveaux amis. Leur sympathie était un marché. Pour qu'ils fussent avec lui, il fallait qu'il fût avec eux. Et il était trop évident que Christophe ne céderait rien de lui-même. Il ne se laissait pas enrôler. On lui battit froid. Les éloges qu'il se refusait à décerner aux dieux et petits dieux, estampillés par le clan, lui furent refusés. On montra moins d'empressement à accueillir ses œuvres, et certains commencèrent à protester de voir son nom trop souvent sur les programmes. On se moquait de lui derrière son dos, et la critique allait son train. Kling et Lauber, en laissant dire, semblaient s'y associer. On se fut bien gardé pourtant de rompre avec Christophe, d'abord parce que les cerveaux rénants se plaisent aux solutions mixtes, aux solutions qui n'en sont point, et qui ont le privilège de prolonger indéfiniment une situation ambiguë. Ensuite, parce qu'on espérait bien, malgré tout, finir par faire de lui ce qu'on voulait, sinon par persuasion, du moins par lassitude. Christophe ne leur en laissa pas le temps. Quand il croyait sentir qu'un homme avait de l'antipathie pour lui, mais n'en voulait pas convenir et cherchait à se faire illusion, afin de rester en bons termes avec lui, il n'avait pas de cesse qu'il n'eût réussi à lui prouver qu'il était son ennemi. Après une soirée au Wagnerverein, où il s'était heurté à un mur d'hostilité hypocrite, il envoya à Lauber sa démission sans phrase. Lauber n'y comprit rien, et Mannheim accourut chez Christophe pour tâcher de tout arranger. Dès les premiers mots, Christophe éclata. « Non, non, non et non. Ne me parle plus de ces êtres, je ne veux plus les voir. Je ne peux plus, je ne peux plus. J'ai un dégoût effroyable des hommes. Il m'est presque impossible d'en regarder un en face. » Mannheim riait de tout son cœur. Il pensait moins à calmer l'exaltation de Christophe qu'à s'en donner le spectacle. « Je sais bien qu'ils ne sont pas beaux, dit-il, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Que s'est-il donc passé de nouveau ?»« Rien du tout, c'est moi qui en ai assez. »« Oui, ris, moque-toi, c'est entendu, je suis fou. » Les gens prudents agissent d'après les lois de la saine raison. « Je ne suis pas ainsi. Je suis un homme qui agit d'après ses impulsions. Quand une certaine quantité d'électricité s'est accumulée en moi, il faut qu'elle se décharge coûte que coûte, et tant pis pour les autres s'il leur en cuit, et tant pis pour moi. Je ne suis pas fait pour vivre en société. Désormais, je ne veux plus appartenir qu'à moi. » « Tu n'as pourtant pas la prétention de te passer de tout le monde, » dit Mannheim. « Tu ne peux pas faire jouer ta musique à toi tout seul. Tu as besoin de chanteurs, de chanteuses, d'un orchestre, d'un chef d'orchestre, d'un public, d'une claque. » Christophe criait « Non, non, non !» Mais le dernier mot le fit bondir. « Une claque? Tu n'as pas honte ?»« Ne parlons pas de claque payée, quoique ce soit, à vrai dire, le seul moyen qu'on ait encore trouvé pour révéler au public le mérite d'une œuvre. Mais il faut toujours une claque, une petite coterie dûment stylée. Chaque auteur a la sienne, c'est à cela que les amis sont bons. »« Je ne veux pas d'amis. »« Alors tu seras sifflé. »« Je veux être sifflé. » Mannheim était aux anges. « Tu n'auras même pas ce plaisir longtemps, on ne te jouera pas. »« Eh bien, soit. Crois-tu donc que je tienne à devenir un homme célèbre ?»« Oui, j'étais en train de tendre à toute force vers ce but. »« Non-sens, folie, imbécilité. » Comme si la satisfaction de l'orgueil le plus vulgaire était une compensation aux sacrifices de toutes sortes, ennuis, souffrances, infamie, avanie, avilissement, ignobles concessions, qui sont le prix de la gloire. Que 10 000 diables m'importent si de semblables soucis me travaillent encore le cerveau. Plus rien de tout cela. Je ne veux rien avoir à faire avec le public et la publicité. La publicité est une infâme canaille. Je veux être un homme privé et vivre pour moi et pour ce que j'aime. C'est cela, dit Mannheim, ironique. Il faut prendre un métier. Pourquoi ne ferais-tu pas aussi des souliers? Ah, si j'étais un savetier comme l'incomparable Zax, s'écria Christophe. Comme ma vie s'arrangerait joyeusement. Savetier les jours de la semaine, musicien le dimanche, et seulement dans l'intimité, pour ma joie et pour celle d'une paire d'amis. Ce serait une existence. Suis-je un fou pour sacrifier mon temps et ma peine au magnifique plaisir d'être en proie au jugement des imbéciles? Est-ce qu'il n'est pas beaucoup mieux et plus beau d'être aimé et compris de quelques braves gens qu'entendu, critiqué ou flagorné par des milliers d'idiots? Le diable de l'orgueil et du désir de la gloire ne me prendra plus aux cheveux. Tu peux t'en fier à moi. Assurément, dit Mannheim. Il pensait, dans une heure, il dira le contraire. Il conclut tranquillement. Alors, n'est-ce pas, j'arrange les choses avec le Wagner-Verein. Christophe leva les bras. C'est bien la peine que je m'époumonne depuis une heure à te crier le contraire. Je te dis que je n'y remettrai plus jamais les pieds. J'ai en horreur tous ces Wagner-Verein, tous ces Verein, tous ces parcs à moutons qui ont besoin de se serrer les uns contre les autres afin de bêler ensemble. Va leur dire de ma part à ces moutons, je suis un loup, j'ai des dents, je ne suis pas fait pour paître. C'est bon, on leur dira, fit Mannheim, s'en allant, enchanté de sa matinée. Il pensait, il est fou, fou allié. Sa sœur, à qui il s'empressa de raconter l'entretien, haussa les épaules et dit, « Fou ? Il voudrait bien le faire croire. Il est stupide et d'un orgueil ridicule. » Cependant, Christophe continuait sa campagne enragée dans la revue de Waldhaus. Ce n'était pas qu'il y trouvât plaisir. La critique l'assommait, et il était sur le point d'envoyer tout au diable. Mais il s'entêtait, parce qu'on s'évertuait à lui fermer la bouche. Il ne voulait pas avoir l'air de céder. Waldhaus commençait à s'inquiéter. Aussi longtemps qu'il était resté indemne au milieu des coups, il avait assisté à la mêlée avec le flegme d'un dieu de l'Olympe. Mais depuis quelques semaines, les autres journaux semblaient perdre conscience du caractère inviolable de sa personne. Il s'était mis à l'attaquer dans son amour-propre d'auteur avec une rare méchanceté, où Waldhaus eût pu reconnaître, s'il avait été plus fin, la griffe d'un ami. C'était en effet à l'instigation sournoise de Ehrenfeld et de Goldenring que ces attaques avaient lieu. Il ne voyait plus que ce moyen pour le décider à mettre fin aux polémiques de Christophe. Il voyait juste. Waldhaus, sur le champ, déclara que Christophe commençait à l'agacer, et il cessa de le soutenir. Toute la revue s'ingénia dès lors à le faire taire, mais allait donc museler un chien en train de dévorer sa proie. Tout ce qu'on lui disait ne faisait que l'exciter davantage. Il les appelait capons, et il déclarait qu'il dirait tout, tout ce qu'il avait le devoir de dire. S'ils voulaient le mettre à la porte, libre à eux. Toute la ville saurait qu'ils étaient aussi couards que les autres, mais lui ne s'en irait pas de lui-même. Il se regardait consterné, reprochant aigrement à Mannheim le cadeau qu'il leur avait fait en leur amenant ce fou. Mannheim, toujours riant, se fit fort de mater Christophe, et il paria que dès son prochain article, Christophe mettrait de l'eau dans son vin. Ils restèrent incrédules, mais l'événement prouva que Mannheim ne s'était pas trop vanté. L'article suivant de Christophe, sans être un modèle de courtoisie, ne contenait plus aucune remarque désobligeante pour qui que ce fût. Le moyen de Mannheim était bien simple. Tous s'étonnèrent ensuite de n'y avoir pas songé plus tôt. Christophe ne relisait jamais ce qu'il écrivait dans la revue, et c'est à peine s'il lisait les épreuves de ses articles, très vite et fort mal. Adolphe May lui avait fait plus d'une fois des observations aigres-douces à ce sujet. Il disait qu'une faute d'impression déshonore une revue. Et Christophe, qui ne regardait pas la critique comme un art, répondait que celui dont il disait du mal le comprendrait toujours assez. Mannheim profita de l'occasion. Il dit que Christophe avait raison, que la correction d'épreuve était un métier de prote, et il offrit de l'en décharger. Christophe fut prêt de se confondre en remerciements, mais tous lui assurèrent, d'un commun accord, que cet arrangement leur rendait service, en évitant à la revue une perte de temps. Christophe abandonna donc ses épreuves à Mannheim, en le priant de les bien corriger. Mannheim n'y manqua point. Ce fut un jeu pour lui. D'abord, il ne se risqua prudemment qu'à atténuer quelques termes, à laisser tomber çà et là quelques épithètes mal gracieuses. Enhardi par le succès, il poussa plus loin ses expériences. Il commença à remanier les phrases et le sens. Il déployait à cet exercice une réelle virtuosité. Tout l'art consistait, en conservant le gros de la phrase et son allure caractéristique, à lui faire dire exactement le contraire de ce que Christophe avait voulu. Mannheim se donnait plus de mal pour défigurer les articles de Christophe qu'il n'en aurait eu à en écrire lui-même. Jamais il n'avait tant travaillé de sa vie, mais il jouissait du résultat. Certains musiciens que Christophe poursuivait de ses sarcasmes étaient stupéfaits de le voir s'adoucir peu à peu et finir par célébrer leurs louanges. La revue était dans la joie. Mannheim leur donnait lecture de ses élucubrations. C'étaient des éclats de rire. Ehrenfeld et Goldenring disaient parfois à Mannheim « Attention, tu vas trop loin. »« Il n'y a pas de danger, » répondait Mannheim. Et il continuait de plus belle. Christophe ne s'apercevait de rien. Il venait à la revue, déposait sa copie et ne s'en inquiétait plus. Quelquefois, il lui arrivait de prendre Mannheim à part. « Cette fois, je leur ai dit leur fête à ces canailles. Lis un peu. » Mannheim lisait. « Eh bien, qu'est-ce que tu en penses ?»« Terrible, mon cher, il n'en reste plus rien. » Qu'est-ce que tu crois qu'ils diront? Ah, ce sera un beau vacarme. Mais il n'y avait pas de vacarme du tout. Au contraire, les visages s'éclairaient autour de Christophe. Des gens qui l'exécraient le saluaient dans la rue. Une fois, il arriva à la revue, inquiet et renfrogné, et jetant sur la table une carte de visite, il demanda « Qu'est-ce que cela veut dire ?» C'était la carte d'un musicien qu'il venait d'éreinter. « Avec tous ses remerciements. » Mannheim répondit en riant « Il fait de l'ironie. » Christophe fut soulagé. « Ouf, dit-il, j'avais peur que mon article ne lui eût fait plaisir. »« Il est furieux, dit Ehrenfeld, mais il ne veut pas en avoir l'air. Il fait l'homme supérieur. Il raille. »« Il raille ? Cochon, fit Christophe, de nouveau indigné. Rira bien qui rira le dernier. »« Non, non, dit Waldhaus, inquiet. Je ne crois point qu'il se moque. C'est de l'humilité. Il est bon chrétien. On le frappe sur une joue, il tend l'autre. » « Encore mieux, dit Christophe. Ah, le lâche, il la veut, il aura sa fessée. » Waldhaus voulait s'interposer. « Laisse donc, disait Mannheim. » Après tout, faisait Waldhaus, subitement rassuré, un peu plus, un peu moins. Christophe s'en allait. Les compères se livraient à des gambades et des rires de démence. Quand ils étaient un peu apaisés, Waldhaus disait à Mannheim, « Tout de même, il s'en est fallu de peu. Fais attention, je te prie, tu vas nous faire pincer. » « Bah, disait Mannheim, nous avons encore de beaux jours, et puis je lui fais des amis. »